Alors, qu'appelle-t-on image ? Lorsqu'on vous annonce une conférence sur les images, je suppose que chacun d'entre vous, ou chaque classe d'âge parmi vous, a une idée de ce qu'est pour lui les images, ce que sont pour lui les images. Est-ce que tout le monde a la même idée ? Est-ce qu'on a eu toujours la même idée au cours des siècles ? C'est pas certain. On va faire une petite rétrospective de cette affaire-là. Qu'appelle-t-on image ? Selon les époques, on s'aperçoit que le terme d'image n'a pas toujours la même signification. Il s'agit en fait, dans le mot image, d'un terme global qui évoque des réalités différentes selon les âges. Par exemple, dans la préhistoire, nous, modernes, nous appelons image des représentations qui étaient des peintures ou des sculptures dans les grottes. Vous avez un exemple qui est une des parois de Lascaux. Bon, ces peintures préhistoriques ou ces gravures préhistoriques, on en a trouvé sur la terre entière, au Sahara, en Australie, en Amérique latine, en France, bien sûr, en Europe. Nous appelons cela des images. Ces représentations, quel poids avaient-elles, que représentaient-elles précisément pour les hommes et les femmes préhistoriques? Nous n'en savons pas grand-chose. On élabore des suppositions, des hypothèses, on pense qu'elles avaient une fonction religieuse, mais on ne sait même pas si ce terme d'image auquel nous pensons maintenant était adapté. On connaît aussi, par exemple, ce qu'on a appelé les pétroglyphes et les pétrogrammes, c'est-à-dire les peintures ou les sculptures sur pierre, comme avant-courrier de l'écriture. C'est-à-dire que ce que nous appelons image, encore une fois, a pu servir aux hommes et aux femmes pour communiquer avant que n'existe dans leur culture, dans leur pays, l'écriture. Alors, par exemple, voilà, ça c'est quelque chose d'assez impressionnant. C'est une peinture sur pierre, des Indiens d'Amérique centrale, du Mexique, avant l'écriture, et qui indique qu'il ne faut pas passer par là, vous voyez, qui indique qu'une chèvre peut prendre le chemin de la montagne, mais pas un cheval, parce que il tombera à la renverse. Voilà, une façon de dire ne pas interdit, sans s'interdit, avant l'écriture, exprimée sous une forme que nous appellerions image. Dès la philosophie de l'Antiquité, je suppose que vous avez entendu parler, même dans les jeunes classes, vous avez entendu parler des premiers philosophes occidentaux, de Platon, de Socrate, d'Aristote, etc., etc. Chez ces philosophes du début de la philosophie occidentale, on parle d'image. Et de quoi s'agit-il alors, lorsque Platon parle d'image, lorsque Aristote parle d'image? Eh bien, Platon, par exemple, il désigne deux choses en parlant d'image. D'ailleurs, il a deux termes en grec. Deux choses. Il désigne d'une part ce qu'il appelle les reflets, les ombres à la surface des eaux ou sur les métaux polis, c'est-à-dire finalement l'image du miroir. Hein. Ça, c'est une image pour Platon. Et puis aussi la peinture. La peinture représentative. Donc, image. Pour Platon, et d'ailleurs pour Platon, l'image n'est pas très, très intéressante, hein, parce que c'est une copie qui ne sert pas à grand-chose. Donc c'est une apparence d'une réalité qui elle-même est une apparence, etc., etc. Donc ça n'a pas grand intérêt. Pour Aristote, qui est plus jeune, qui arrive peu de temps après, l'image aussi c'est la peinture, hein, les figures, la figure peinte. Et donc là, pour Aristote, au contraire, l'image, la peinture qui représente des objets du monde est intéressante. Pourquoi est-ce qu'elle est intéressante? Parce qu'elle imite le monde, hein, et qu'avec l'imitation, on peut apprendre. Aristote dit l'enfant apprend en imitant. Vous voyez, et il dit aussi l'homme prend plaisir aux images. Et cette notion de prendre du plaisir aux images, évidemment, va à l'encontre, par exemple, de Platon, qui était son maître, qui lui trouvait que le plaisir n'avait pas forcément sa place dans la cité. Bien. Donc, pour Aristote, l'image, c'est l'image peinte. Et l'image peinte, elle est utile parce qu'elle sert. Elle peut servir à augmenter ses connaissances, à l'éducation, et qu'en plus c'est agréable à faire ça. Ensuite, on s'aperçoit qu'il est question aussi d'images dans la Bible. Certains d'entre vous le savent peut-être, dans la Bible, il est question d'images, et justement, l'image est interdite dans la Bible. L'image est interdite dans la Bible. Tu ne fabriqueras pas d'image, ni de ce qui est dans le ciel, ni de ce qui est sur le sol, ni de ce qui est sous terre, devant lesquels t'incliner. C'est-à-dire que l'image menace une représentation divine qui ne serait pas évidemment adaptée, donc pas d'image dans la Bible. Mais il s'agit plus dans la Bible, non pas nécessairement de représentation peinte, mais plutôt dite de l'idole, c'est-à-dire de sculpture qui aurait représenté d'autres dieux. Bien. On s'aperçoit encore que justement la représentation sacrée, la représentation du Christ, de la Vierge, des saints, etc., etc., va poser un problème énorme à Byzance, dans l'Empire romain d'Orient, devenu chrétien. Et là, il y a ce qu'on appelle, entre le 4e et le 7e siècle après Jésus-Christ, une guerre. La guerre des images, ou bien une querelle des images, avec les partisans des images et des opposés aux images, qui sont les images de saintes. Mais pas seulement les images saintes. À Byzance, entre le 4e et le 7e siècle, un des empereurs les plus opposés aux images redoutait les images, non pas seulement parce qu'elles représentaient le Christ et que le Christ c'était Dieu et qu'on ne représente pas Dieu. Connaissez ce genre d'argument, mais aussi parce que les monnaies, il y avait son propre visage représenté sur la monnaie. Et ce faisant, ça le rendait fou parce qu'il avait l'impression de voir son double multiplié partout dans la nature. Et donc, il a voulu supprimer tous ces doubles inquiétants. Bien. Donc, des gravures sur les pierres, des dessins sur les pierres, des statues, des peintures, etc., etc. On peut dire que tout cela est désigné par le mot image jusqu'au moment où nous sommes. Si je parle encore des Latins dans l'Antiquité, par exemple, les Latins appelaient image plusieurs choses. Ils appelaient image le portrait, donc la copie des visages des gens, mais ils appelaient aussi image des masques mortuaires. C'est-à-dire le modelage du visage des morts que l'on mettait ensuite dans la maison pour protéger la famille. Hein? Ce masque mortuaire des ancêtres, si vous voulez, était des images pour les Latins. Et ce qu'il y a de très particulier, c'est que ces images qu'ils appelaient imagines, hein, ces images, alors vous allez voir les implications sociales qui sont assez étonnantes, ces images... Seuls les nobles avaient le droit de les porter aux funérailles. Vous voyez, les patriciens, comme on disait, si vous avez fait un petit peu de latin. Donc, seuls les nobles, les aristocrates, avaient le droit de porter ces masques aux funérailles en honneur de leur mort. Les pauvres, la plèbe, les plébéiens n'avaient pas le droit de porter ces images. Donc, il y avait un droit des images, qui n'est pas le droit actuel des images, qui concernait les classes sociales dans l'Antiquité latine. Bien. Donc, si on avance un petit peu dans le temps, on s'aperçoit que pour toutes les époques suivantes, après l'Antiquité dont je vous ai parlé, grec, la Bible, latine, finalement, on s'aperçoit que le terme d'image renvoie surtout à la peinture, à la sculpture, avec pour chaque époque des grandes tendances d'utilisation, d'usage et de fonction, à quoi ça sert, de ces images. Hein? Alors, on peut penser aux images peinture, sculpture, qui vont avoir des rôles soit religieux, soit politiques, au Moyen-Âge, à la Renaissance, dans l'art moderne et jusqu'à nos jours. Alors, disons que l'image a été pensée comme peinture, sculpture, etc., jusqu'à l'apparition de la photographie, en gros. Alors, vous savez sans doute que la photographie, elle apparaît au milieu, à peu près au milieu du 19e siècle, hein, 1826, inventée par c'est Forniebs et Daguerre, hein, au milieu du 19e siècle. Alors, à partir de la photographie, il est vrai que ce qu'on appelle image se développe, et le développement des images va s'accélérer par l'intermédiaire, bien sûr, de la photo, mais aussi du cinéma, puis après de la vidéo, et après, jusqu'à nos jours, jusqu'au numérique. Voyez. Donc, les images, très globalement, quand on parle d'images, on évoque l'art de la représentation visuelle, c'est-à-dire représenter visuellement quelque chose du monde des techniques de la peinture, de la sculpture, ou de la photographie, du cinéma, etc., etc. Alors, de nos jours, absolument, qu'est-ce qu'on appelle plutôt image ? Depuis l'avènement du cinéma, de la télé, et surtout de la télévision, depuis les années, on peut dire, 60-70, on s'aperçoit que, lorsqu'on parle d'image, alors essayez de... Je ne sais pas ce que vous avez pensé quand on a pensé d'image, quand on a parlé d'image. J'aimerais bien savoir, avant de vous donner mon avis, est-ce que quelqu'un veut parler là-dessus ? Que depuis les années 60, 70, même 50, on peut dire, depuis la télévision, quand on parle d'image dans nos sociétés occidentales, on pense surtout à l'image médiatique. L'image médiatique, qu'est-ce que c'est ? La télévision, les magazines, le cinéma, les journaux, hein, et aussi à l'image maintenant numérique, Internet, etc., etc. On pense, alors par exemple, on peut... Et alors très souvent, vous observerez ça autour de vous, demandez autour de vous, comme ça, quand vous êtes entre amis ou en famille, une image c'est quoi pour toi ? Et vous apercevrez, tout le monde comprend de quoi on parle, mais personne n'arrive à le définir. Mais les images, c'est les images. Ben oui, les images, c'est les images, mais c'est quoi exactement ? Vous voyez ? Bon. Et donc on s'aperçoit... que très souvent on dit c'est la pub, les images c'est la pub, mais la pub, c'est mignon ça, bon. Donc très souvent, vous entendrez des personnes vous dire « c'est la pub, c'est la pub ». Ça, c'est une très belle image de pub. Mais la pub, c'est un contenu. C'est-à-dire qu'une photo, une image Internet, bon, elle, il y a quelque chose en elle qui peut être de la pub, mais qui peut être autre chose. Donc, dire que l'image, c'est la pub, c'est se tromper, si vous voulez, d'univers. Il y a d'un côté le support, une image, une photo, une image numérique, peu importe, une vidéo, et ce qu'elle représente. Ici, des mannequins pour la publicité d'un parfum. Vous voyez ? Donc la pub, c'est pas l'image. Il y a des pubs il y a des publicités parlées, il y avait autrefois des publicités criées, même. Hein. Donc la publicité, c'est un contenu, ça n'est pas l'image. Bon, alors maintenant, c'est vrai qu'on parle qu'il y a beaucoup... On peut voir beaucoup d'images si on admet qu'il s'agit toujours d'une représentation visuelle. Mais ce n'est pas sûr, hein, que l'image, c'est une représentation visuelle. Je suis sûre quand on vous a parlé dans vos cours, ou même vous, entre vous, vous pouvez parler de l'image de quelque chose. Par exemple, l'image de la femme dans le cinéma des années 30. L'image, ce à quoi vous vous préparez comme métier, par exemple, l'image de l'agriculteur dans les médias du XXe siècle. Quand on dit image, l'image de l'agriculteur, l'image de la femme, l'image du président, etc., est-ce qu'on parle d'image de photographie ? Est-ce qu'on parle d'Internet ? Est-ce qu'on parle de la télé ? Non. Et pourtant, tout le monde se comprend. C'est un grand mystère autour de ce mot image. Difficulté à définir et en même temps une utilisation tout à fait plurielle. Tout à fait plurielle. L'image de marque, par exemple, d'un produit laitier. Son image de marque, c'est la fraîcheur, les machins. Ça veut dire l'image de marque. Image, encore une fois. Donc, qu'est-ce qu'il y a de commun entre image de marque d'un produit laitier, image de l'agriculteur dans, la, dans les médias, image de la femme dans le cinéma des années 30, et les images de l'ASCO, et les images de publicité, et les images du journal télévisé, etc. Qu'est-ce qu'il y a de commun dans, dans cette, ces utilisations diverses du mot image? Ça, certes, le mot. Mais quoi dans ce mot? Quoi dans ce mot qui fait qu'on se comprend et que pourtant il ne s'agit vraiment pas de la même chose? Pardon? La façon dont on tourne la phrase. Oui, vous voulez dire que par le contexte, je comprends de quelle image il choisit. Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il y a de commun entre l'image de marque d'un produit laitier et l'image de pub? Voilà, on comprend, mais on ne sait pas dire. Alors, amusez-vous comme ça, entre amis ou en famille, à poser des questions, c'est assez drôle, parce qu'effectivement, il y a un grand flou derrière un terme que tout le monde semble comprendre. Bon, alors moi, ce que je peux vous dire, ce qui me semble, c'est que dans les deux fois, dans les deux termes, image de marque et image photographique, il y a l'idée d'une représentation. Une représentation. Qu'est-ce que ça veut dire, une représentation? Ça veut dire que je présente quelque chose qui n'est pas là. Quelque chose qui n'est pas là, d'une certaine manière. Et alors, quel est le lien entre la représentation photographique et la représentation imaginaire de l'image de marque? Ça serait la ressemblance. Voilà, ça serait la ressemblance. Donc on peut dire qu'une image, c'est quelque chose qui parle de quelque chose qui n'est pas là. L'image du château de Versailles, c'est pas le château de Versailles. Vous êtes d'accord? L'image de ces deux femmes, pour la, elles sont pas là, ces femmes, même si elles sont bien belles, elles sont pas là. D'accord? Donc c'est une absence. Ça me désigne quelque chose qui n'est pas là. C'est-à-dire que l'image, c'est ce qui est présent et qui me parle de quelque chose qui n'est pas là et qui ressemble à cette chose qui n'est pas là. Soit physiquement, par les traits, la photographie, la peinture, etc., soit mentalement. C'est-à-dire qu'on va essayer d'associer fraîcheur et produits laitiers. Ça se ressemble. Même si c'est faux, hein, on construit le truc. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc au fond, une image, ça serait quelque chose qui est là pour quelque chose d'autre et qui lui ressemble. Soit concrètement, soit mentalement. Vous me suivez? Bon. D'accord. On suit. Bon. Alors, nous, aujourd'hui, nous allons parler des images concrètes. On ne va pas parler des images mentales, on va parler des images concrètes. C'est-à-dire des images que l'on peut voir, effectivement, représentation visuelle, et qui imitent ce qu'elles représentent. Parce qu'il y a des images abstraites aussi, vous savez bien. On nous dit que ça ressemble à rien. On va parler de celles qui ressemblent. Et alors, où est-ce qu'on les trouve, ces images? Eh bien, on les trouve dans les magazines, dans les photos de presse, sur la télévision, dans les vidéos, dans les DVD, dans les CD-ROM, dans les jeux vidéo, dans les écrans d'ordinateur ou sur les écrans d'ordinateur, sur les téléphones portables, etc., etc. Donc, on peut dire effectivement que des images, il y en a beaucoup. Alors, si on peut voir beaucoup d'images, est-ce que pour autant cela veut dire que les images prolifèrent? Prolifèrent. Je suis sûre que vous connaissez le sens du terme de prolifération. Qu'est-ce que ça veut dire, prolifération? Oui, reproduire, reproduire. Et plutôt, une reproduction de quoi? Hein? Oui, ça, duplication, vous dites? Multiplication, etc. Mais pourquoi on dit prolifération dans cette invitation à cette conférence? On a parlé de prolifération plus que de multiplication. La prolifération, si vous regardez dans le dictionnaire, vous verrez que c'est d'abord la reproduction et la multiplication du vivant. Du vivant. Hein, des cellules, des animaux, etc., etc. Du vivant. Alors que multiplication, ça s'adresse plutôt à des objets, pas forcément vivants, ça peut être inerte. Voyez. Donc lorsqu'on dit que l'image prolifère, ça veut dire qu'on sous-entend quoi? On sous-entend finalement Elle est vivante. Que les images sont vivantes. Que les images sont comme des petits... Et elles sont vivantes de façon bénéfique, positive ou au contraire insidieuse, à votre avis? Hein? Ça me paraît clair. Quand on parle de prolifération, on envisage plutôt un déploiement bénéfique ou nuisible des images, à votre avis? Oui, nuisible, vous avez raison. Nuisible. La prolifération, c'est du vivant qui se reproduit, mais de façon quand même incontrôlée, un peu dangereuse, à la manière finalement des microbes. Vous voyez, c'est, il me semble en tout cas, si vous n'êtes pas d'accord pour me le dire, mais il me semble que quand on parle de prolifération des images, on pense plutôt à quelque chose qui se développe et qui nous menace qu'à quelque chose qui se multiplie. Bon, ben, on constate qu'il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Prolifération est quelque chose d'un petit peu dangereux. C'est presque biologique, vous voyez, c'est une multiplication du vivant, des cellules, etc., etc. Alors, là encore, on va faire un petit tour dans l'histoire. Hein, on va faire un petit tour dans l'histoire. Est-ce que c'est effectivement récent qu'il y ait beaucoup d'images autour de nous, ou est-ce qu'il y a toujours eu beaucoup d'images? À quel moment il y aurait une différence entre, mettons, multiplication et prolifération? À quel moment est-ce qu'on peut situer une sorte de rupture, de saut entre ce qu'on pourrait appeler une multiplication des images et une prolifération des images? Alors, eh bien, si on réfléchit à l'histoire des images, je vous ai montré la grotte de Lascaux, je vous ai montré un rocher gravé chez les Indiens, etc. Eh bien, si on réfléchit à l'origine et à l'histoire des images comme représentation visuelle, hein, c'est ce qu'on... J'avais tenu comme terme pour aujourd'hui, on s'aperçoit que les images, jusqu'à une certaine époque, qui comme par hasard va être encore une fois celle de la photographie et de ses développements, est attachée à des lieux et à des fonctions bien précises. C'est-à-dire que les images, on les trouve où? On les trouve là où elles ont été faites, jusqu'à la photographie, ou à peu près, mais vous verrez, même avant, on commence à les multiplier par d'autres méthodes, en fait c'est jusqu'à l'imprimerie plutôt, on les trouve là où elles ont été faites, c'est-à-dire que où est-ce qu'on fait des images, où est-ce qu'on fait des peintures, où est-ce qu'on fait des décorations visuelles, eh bien, dans les palais, à part les grottes, hein, que je vous ai montré, dans les palais et dans les églises, voilà. Et dans les palais et dans les églises, il peut y avoir jusqu'à des époques très contemporaines, beaucoup d'images, énormément d'images. On va en voir deux exemples. Voilà une image, voilà des fresques, ce sont les peintures qui sont faites sur des murs, hein. Il y en avait à Pompéi, dans les villas de Pompéi, chez les riches latins, etc., il y en avait dans l'Antiquité. Les fresques sont des peintures faites sur les murs à la fresca, c'est-à-dire avec une peinture fraîche, d'où le terme. Eh bien, voilà des fresques, vous voyez comme c'est chargé, hein, que l'on trouve dans des églises orthodoxes de Grèce. Je sais qu'il y en a parmi vous qui vont aller en Grèce bientôt avec leur professeur. Eh bien, cette photographie, elle vient d'une chapelle couverte d'images, du sol au plafond, autour des colonnes, absolument partout, dans une petite ville qui s'appelle Mitra, qui n'est pas loin de Sparte, vous avez peut-être entendu parler, et qui est très représentative, cette image, des icônes et des images qu'on trouve dans les églises orthodoxes. C'est-à-dire qu'il y en a partout, comme je vous le dis, du sol au plafond. Vous êtes peut-être déjà rentré dans des églises, il n'y a pas des images partout, il peut y avoir des colonnades nues, comme ici, ou des voûtes nues, sans décoration. Eh bien, dans ces églises orthodoxes du Moyen-Âge en Grèce, il n'y a pas un centimètre qui n'est pas décoré. On peut voir ici. Bon, alors, là, est-ce que peut-être certains d'entre vous sont allés à Rome, peut-être certains d'entre vous sont allés au Vatican. Voilà, ici la chapelle Sixtine, qui est très très connue, peinte par Michel-Ange au XVe siècle en Italie, commandée par les papes et les évêques et les cardinaux et tout ce que vous voulez, surtout les papes. Voilà des exemples d'images multipliées, s'il en est. Hein. Là aussi, il n'y a pas un centimètre qui n'est pas peint. Et j'aurais pu multiplier les exemples de ce genre de décoration religieuse. Bon, eh bien, il y a la même chose dans les palais. Si vous allez à Venise, si vous allez dans les palais de la Loire, les châteaux de la Loire, si vous allez dans les palais même des environs, etc., vous verrez des coupoles peintes, des murs peints, des plafonds peints, des multiplications, un nombre étonnant d'images. Alors le désir de pérenniser ces images, c'est-à-dire un petit peu de les arracher parce qu'elles sont accrochées au mur, aux voûtes, au plafond des palais, et on ne peut pas les en enlever. Elles sont là. C'est comme toutes les hiéroglyphes égyptiennes, dans les mastabas, dans les tombeaux égyptiens, couverts d'images. Alors, il y a quand même eu du travail de duplication qui a été fait pour pouvoir garder ces images. Dès l'Antiquité aussi, il y avait les scribes égyptiens, bien sûr, qui recopiaient des images et les hiéroglyphes. Il y avait les moines au Moyen-Âge, les moines copistes qui recopiaient des textes et aussi des images à la main pendant des heures et des heures. Et puis, la multiplication, on peut dire, des images, elle a commencé avec l'imprimerie, en tout cas en Occident. Mais il y avait aussi des arts de gravure et d'imprimerie déjà en Chine depuis des siècles avant notre 15e siècle, puisque c'est au 15e siècle. Donc, au 15e siècle, apparition de l'imprimerie. Et avec l'imprimerie, vous avez des gravures sur bois, là, qui recopient les tableaux, qui illustrent des récits, il y en a, et puis qui recopient les tableaux, et ça se développe au 15e, au 16e, au 17e siècle, où vous avez souvent le tableau d'un grand peintre et sa reproduction gravée qui se vend, qui se commercialise à côté. Bon, et alors ça c'est le premier saut, hein, l'imprimerie, 1440, hein, milieu du 15e siècle. Et puis alors le deuxième saut, c'est évidemment la photographie qui va tout saisir, hein, non seulement les tableaux, les palais, mais aussi la nature, mais aussi les gens, etc., etc., et qui va permettre aux images de se multiplier presque indéfiniment. Alors, il faut savoir que cette affaire de la photographie et de la reproduction technique et des œuvres et des lieux et des personnes a posé problème aux penseurs de l'époque. Il y a un texte très très célèbre, je pense que je peux le citer, même si vous n'êtes pas encore en terminale et en philosophie, mais vous en entendrez parler, d'un philosophe allemand qui s'appelle Walter Benjamin, en allemand Benjamin, qui a écrit un grand, grand texte, grand par sa force de réflexion, pas par sa quantité, c'est un petit texte de 30 pages, vous pourrez le lire, qui s'appelle « L'œuvre d'art à l'ère de la reproductibilité technique ». Hein, il a écrit ça en 1930 et quelques. L'œuvre d'art à l'ère, à l'époque, de la reproductibilité technique. Et qu'est-ce qu'il dit là-dedans, Benjamin? Il est bien d'accord que la reproduction des œuvres, elle n'est pas apparue en 1930. Hein. Il sait qu'il y avait des gravures des Moyen-Âge, de l'imprimerie, etc., qu'il y avait des gravures au Japon, qu'il y avait des gravures en Chine, etc., etc. Il le sait, ça. Non, ce qui pose problème, c'est la technicité. C'est-à-dire que maintenant, c'est facile, on peut reproduire à toute allure les œuvres. Et ce qu'il dit, et la question qui se pose, et que je vous pose, et qu'on se pose toujours, et qu'on se pose encore plus maintenant avec l'image que vous allez voir, c'est pour ça que je vous en parle de Benjamin, même si ça paraît très philosophique d'évoquer ce texte. La question qu'il pose, c'est celui de l'œuvre d'art. Vous voyez, l'œuvre d'art. Un tableau de Van Gogh, un tableau de Michel-Ange. Ces voûtes de la Sixtine peintes par Michel-Ange. Bref, une œuvre d'art. Si elle est reproduite comme là, qu'est-ce qui se passe? Où est-elle, l'œuvre d'art? Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on a perdu? C'est ça la question, tout dit. qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on perd? Et moi j'ajoute, qu'est-ce qu'on gagne en fait? Qu'est-ce qu'on perd et qu'est-ce qu'on gagne dans la reproduction d'une œuvre d'art? Où est-elle l'œuvre d'art? Ce qu'il dit, c'est que avec la reproduction technique des œuvres, on perd, l'œuvre perd ce qu'il appelle son aura. C'est-à-dire le fait qu'on soit en face d'une œuvre unique, nous unique. Vous voyez? Alors ça banalise, ça fait disparaître quelque chose, une rencontre hein, unique en, dans une multiplication qui est peut-être beaucoup plus vaine d'une certaine façon. En tout cas, c'est une question. Qu'est-ce qu'on perd dans la reproduction des œuvres? Elle reste absolument vivante, cette question. Alors, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est qu'à part cette affaire de reproduction technique, la photo, qu'a bouleversé le cinéma et qu'a bouleversé la numérisation, qui sont finalement les trois grandes étapes de la reproduction de plus en plus nombreuses, des reproductions de plus en plus nombreuses des images. Alors, avec la photo, il y a une sorte de capture, de captation du réel, comme vous le savez, et on va se servir de la photo comme une sorte de preuve de quelque chose. J'ai photographié ceci ou cela, donc ça a existé. Donc la photo va avoir un rôle social tout à fait nouveau dans l'histoire des représentations visuelles. Histoire de preuve. Et cette preuve, elle va même quelquefois servir d'idole, de fétiche, pour, par exemple, si on pense aux photos des disparus, des gens qu'on aime, etc., etc., ça n'est jamais qu'un bout de papier. Mais on va le traiter d'une façon presque sacrée. Bon. Le cinéma qui est un développement de la photographie. Eh bien, figurez-vous que le cinéma va être pensé au début, dans son apparition, pas en 1895 avec les frères Lumière, etc., etc., et puis avec Méliès et tout ça, mais très vite, certains États, alors écoutez ce que je vais dire, certains États vont ériger le cinéma comme art d'État. Hein ? Qui fait ça ? Et pourquoi fait-on cela ? À cause de quelque chose qui est aussi lié à la photographie, qui serait comme une preuve, comme quelque chose de plus convaincant. Alors, par exemple, après la Révolution russe, dans les années 20, Lénine, au début du bolchevisme, de l'URSS, décide que le cinéma va être un art d'État. Pourquoi ? Parce qu'avec le cinéma, il envoie des réalisateurs dans tout le pays, on va changer l'esprit des spectateurs, les paysans, les ouvriers, on va les amener à être des hommes nouveaux, on va les amener à la révolution grâce aux images du cinéma. C'est-à-dire que le cinéma va devenir un outil, va être pensé par des dirigeants totalitaires comme un outil de propagande très efficace. Alors, est-ce que c'est efficace ? Ça, c'est une autre affaire. Mais l'idée que le cinéma et que l'image est puissante et peut agir sur nos esprits n'a pas disparu, même dans nos sociétés. Donc, deuxième exemple de pouvoir fort qui érige, qui veut utiliser le cinéma comme outil de propagande, le nazisme, l'Allemagne nazie, avec Goebbels, hein, qui promeut le cinéma comme art d'État pour propager l'idéologie national-socialiste, hein, avec Leni Riefenstahl, une grande réalisatrice très très connue qui fait des films en l'honneur de Hitler, du nazisme, etc., pour convaincre le peuple. Grâce au cinéma, on va convaincre le peuple. Troisième exemple. Figurez-vous que le Centre national du cinéma en France a été, qui est le CNC, une institution qui aide le cinéma chez nous, hein, une institution d'État. Eh bien, cette institution, CNC, que vous voyez apparaître dans tous les ballets films que vous regardez à la télévision avant tout, avec l'aide du CNC. Eh bien, le CNC, il a été créé en France pendant l'occupation par les Allemands. Pourquoi ? Parce que, art d'État, on va changer les idées, puisque c'est plutôt ça qui s'est passé pendant la dernière guerre, on va changer les idées du peuple occupé, on va le distraire, etc., pour mieux s'installer dans le pays. Et alors, le CNC, nous, les Français, nous l'avons copié, et nous l'avons, par exemple, instauré au Maroc, sous un nom qui s'appelle la CCM, Compagnie Cinématographique du Maroc, pour développer le cinéma au Maroc, et on a fait la même chose dans les autres colonies. Pourquoi ? Pour convaincre les indigènes que nous, les Français, nous étions nous leur apportions la civilisation, la science, la sagesse et la vertu. Voyez ? Donc, de fil en aiguille, on s'aperçoit que quand ce sont des États qui prennent le cinéma sous leur coupe et les images sous leur coupe, c'est parce qu'ils pensent que les images vont être particulièrement efficace pour influencer le public et les spectateurs. Alors, on peut se demander, avec cette très 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 brève et petite rétrospective, après cette très très brève petite rétrospective, ce qu'il y a de neuf, hein, qu'est-ce qu'y a-t-il de neuf de nos jours, dans les images que nous voyons? Alors il y a deux choses, je pense, qu'il faut distinguer. C'est ce que l'on voit, c'est-à-dire ce qu'il y a dans les images, et puis à quoi elles servent. Est-ce que vous pensez que les images que nous voyons maintenant à la télévision, sur Internet, sur les téléphones portables, sur les ordinateurs, sont très différentes des images que nous voyions avant toutes ces techniques, simplement en photographie, en cinéma ou même en peinture, etc. Est-ce que vous pensez que c'est très différent ? Oui ? Oui, quoi est différent ? De la même manière. Donc ce qu'on peut dire du point de vue du contenu, c'est-à-dire de ce qu'on voit dans l'image, la différence, c'est la qualité. La qualité et le traitement des motifs. D'accord ? Alors, on s'aperçoit avec les images contemporaines, les images numériques, hein, qu'on peut avoir deux, on peut aller d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire qu'il peut y avoir soit des images de très, très, très grande qualité, justement, presque hyper réalistes, hein, où on a l'impression, il y a une espèce de perfection technique, des gammes de couleurs illimitées, des millions, des milliards de pixels qui font que c'est de mieux en mieux défini, vous connaissez tous ces termes-là, etc. Donc il peut y avoir une très haute qualité technique d'un côté, hein, qui va donner l'impression que ce que l'on voit est presque la réalité, ou même plus réel que le réel. Et puis il va y avoir d'autres types de traitements, au contraire, qui vont être des images sales. Alors il y a deux sortes d'images sales. Il y a les images dont le contenu est sale, c'est-à-dire que, vous savez, les happy slappy, je ne sais quoi, enfin, on filme de la torture, des bagarres, de la pornographie, tout ce que l'on veut, et on la diffuse, c'est le contenu qui est sale. Mais il peut aussi avoir des images sales, c'est-à-dire mal définies, avec du grain, avec des couleurs qui bavent, etc. Et alors là, ça sera une caution, non pas de perfection, d'hyper-réalisme, mais au contraire, pas d'hyper-réalisme, mais au contraire de réalisme. Parce que ça va être l'image un peu ratée, finalement, va donner l'impression que c'est du prix sur le vif, et que ça, c'est encore plus une preuve. Plus c'est mal fichu, plus c'est amateur, on en a malheureusement encore des exemples avec la triste histoire du tremblement de terre d'Haïti, hein. Les images, plus elles sont tremblées, plus elles ont moins elles ont de grains, plus elles sont bougées, etc., plus on nous dit ça c'est du témoignage, c'est de l'amateur, c'est du vrai. Hein. On va d'une espèce de perfection de l'image à une espèce de saleté de l'image, mais finalement, quels sont les critères que l'on vise entre ces deux extrêmes, c'est le vrai. Hein. Comme si représenter le réel avait forcément une force de vérité, qui est évidemment une question que tout le monde peut se poser et qui n'est pas évidente du tout. Alors, il se passe qu'avec ces deux usages, du parfait, du presque parfait au sale, entre ces deux usages, évidemment, on va franchir, ça c'est une deuxième conséquence des images contemporaines, on va franchir un certain nombre de frontières. Et ça, on le voit dans les reportages à la télévision. On va franchir en particulier on va franchir, par exemple, le passage entre privé et public. Les amateurs qui vont, les photos d'amateurs qui vont passer dans le public, et le domaine du public qui va s'emparer du domaine privé des photos des uns et des autres. Bon, ça, c'est une des conséquences qu'il peut y avoir dans cette affaire. Mais ce que je voudrais qu'on passe plutôt en revue, c'est plus que le contenu des images, leur fonction, à quoi elles servent et comment on s'en sert. Voilà. Il y a un chercheur qui s'appelle Roland Barthes, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui justement, à l'époque de son travail sur l'image, sur la photo, avait essayé de trouver la différence qu'il y avait entre une photographie et une peinture. Et il a dit, il y a des photos, les peintures c'est plutôt ceci, les photos c'est plutôt cela, etc. Et il s'est rendu compte que ce qui distinguait des images entre elles, justement, c'est pas le contenu, ce que vous m'avez dit, c'est pas le contenu. Parce qu'il peut y avoir des peintures qui ont l'air de photos, des photos qui ont l'air de peintures, des trucs plus fidèles, des trucs moins fidèles. Finalement, avec toutes les techniques, on peut avoir tous les types de contenu. Il n'y a pas un contenu absolument privilégié pour la peinture, ni un contenu absolument privilégié pour la photographie. En revanche, il y a une autre façon d'interroger la distinction entre les images, et là je crois qu'on peut avoir un éclairage sur les images contemporaines, voyez, sur les images maintenant. C'est ce que nous dit Roland Barthes pour la photo. Finalement, regardons les usages. Une photographie, je peux l'utiliser, c'est ça l'usage, de trois manières. Et c'est encore vrai, je crois, pour les nouvelles images, c'est ce qu'on va regarder. On peut la prendre, la prise. On peut la contempler et on peut être pris. Voilà les trois grands usages à travers lesquels Roland Barthes proposait d'analyser la photo et de voir en quoi elle était particulière. Eh bien, si on regarde maintenant la prise, mais c'est ça, la prise, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a changé dans la prise d'image, la fabrication des images de nos jours, qu'est-ce qui change? Bon, en fait, on peut essayer de distinguer trois types de catégories de personnes qui prennent les photos. Il y a les particuliers, nous tous. Il y a les professionnels. Et il y a les institutions.
On peut dire.
Alors, pour les particuliers, avec les nouvelles techniques d'image, on s'aperçoit que qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce que vous diriez par rapport à avant numérique, par rapport à avant la photo, etc.
La
liberté. Oui, la qualité, on en a parlé. Mais est-ce que vous prenez des photos, vous?
Oui.
Des images?
Oui.
Oui, comment? Avec quoi? Avec le portable. Donc, et pourquoi est-ce que vous prenez des photos? C'est pour le souvenir, le souvenir et le partage. Les professionnels. Qui sont les professionnels des images? C'est la presse, c'est les médias, c'est la mode, c'est la publicité, justement. Quelle est la logique de prise des photos pour les professionnels? Des prises d'images, des fabrications d'images. Pourquoi est-ce qu'on prend les images? Pourquoi est-ce que les professionnels prennent des images? Pour les vendre, exactement, la logique, elle est commerciale. Elle est commerciale. Pour les vendre dans tous les secteurs où il faut utiliser des images. C'est bien, oui, la mode, que le commerce, que l'information, etc., etc. Bien. Et pour les institutions, c'est-à-dire justement les écoles, les banques, les ministères, la police, etc., etc. Oui. Sinon les preuves, la surveillance. Et ça, ça se développe. L'image de surveillance pour l'institution se développe de plus en plus, en même temps que se développe une sorte de, alors je vais employer un terme un peu savant mais je vais vous l'expliquer, se développe une sorte de fantasme du panoptisme, c'est-à-dire l'idée, le fantasme c'est le rêve, les institutions prennent de plus en plus de photographies de nous tous, hein, dans l'idée que plus on voit de choses, plus on contrôle. Plus on contrôle. Le développement, par exemple, des caméras dans les rues, je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés en Angleterre, par exemple, à Londres, c'est hallucinant. C'est ce que notre président voudrait éviter. Mais à Londres, il y a un toit, un plafond de caméras au-dessus de toutes les rues, de tous les croisements. Il y a des croisements de certains quartiers, par exemple le quartier chinois à Londres, où il y a des caméras comme ça en éventail pour filmer les gens qui viennent là, absolument partout. Bon. C'est-à-dire que, vous savez, il m'est arrivé donc d'aller à Londres quelquefois, d'observer ça avec une forme de terreur, parce que c'est quand même impressionnant de se dire que quelques trajets que vous ayez fait dans la ville, des caméras vous ont filmé. Alors, il paraît qu'on a le droit légalement de demander ces images de nous. Alors, ce qu'il faudrait un jour, c'est que toute une population demande les images d'elle-même le même jour, au même moment. Là, ça, évidemment, ça bloquerait un peu le système. Mais c'est très impressionnant parce qu'on se dit que des fantômes de nous-mêmes circulent un peu partout où nous sommes allés. Et tout ça pourquoi? Parce que les États, les institutions s'imaginent que si ils nous voient, ils nous contrôlent. Alors l'idée évidemment qui mène tout cela, c'est que en surveillant la population, en surveillant les banques, en surveillant les magasins, en surveillant les autobus, en surveillant les rues, et en nous surveillant par les images, avec des images, on va empêcher le crime, on va empêcher les bêtises, on va empêcher le vol, on va empêcher la criminalité, etc., etc. C'est pas absolument prouvé, mais c'est en tout cas très effrayant et en même temps peut-être inutile parce que, vous savez, on a dit cette formule que vous connaissez peut-être, trop d'informations tue l'information. Par exemple, il y a une institution américaine qui s'appelle la NSA et qui enregistre tout. Toutes les conversations téléphoniques de la Terre entière tout le temps. Oui. La NSA. Ça s'appelle. NSA. La Security Administration. Enregistrement global, total, constant. Résultat, dans ces milliards et ces milliards et ces milliards d'informations audio, celle-là, eh bien, on n'est plus capable d'extirper ce qui pourrait renseigner sur un éventuel attentat, ou justement parce qu'il y en a trop, vous voyez, trop d'informations, plus d'informations. Parce qu'on va retenir simplement les messages où il y aura écrit, où il y aura dit bombe, avion. Vous pensez bien que les terroristes qui veulent poser des bombes, ils nous disent pas au téléphone. Bon. Etc., etc. Bien. Alors, ça, c'était le voir et le regarder. Hein. Il y avait le prendre. On a vu que prendre, c'était surtout dans un souci de partage. On a vu que voir et regarder, ça pouvait être dans un souci de surveillance. Et puis, il y a être pris. Être pris, c'est le troisième point de notre usage, de l'usage que nous avons évoqué. Quelle différence y a-t-il avec l'être pris en photographie, par exemple, au début de la photographie et maintenant? Alors, il y a ce côté-là, il y a ce côté surveillance que nous ne savons pas forcément. Vous, comme moi, on a forcément des images de nous qui circulent et on ne sait pas où, ni quoi, ni comment, ni pourquoi. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais il y a autre chose dans l'être pris qui bouge, et c'est que précisément parce qu'on peut être pris en photo partout et par n'importe qui, maintenant, il y a toute une législation qui se met en place, qui s'appelle le droit à l'image, hein, et qui fait que on n'a pas le droit de publier des images de vous sans votre consentement n'importe où. Donc il y a toute une législation. C'est-à-dire que socialement, vous voyez, les choses se resserrent énormément autour de l'usage et de la fonction de l'image par rapport au premier temps de la photographie ou même du cinéma. Alors, ceci nous amène... Point prochain. À examiner... où et comment nous pouvons voir et observer ces trois usages de la photographie. Ont perdu de leur matérialité, en effet, hein, et que ce faisant, elles se multiplient de façon qu'on dit exponentielle, comme les techniques, pas plus que les techniques. Les techniques aussi se développent et se multiplient de façon exponentielle. Donc les images se multiplient de façon exponentielle avec les techniques et en même temps que les techniques. Est-ce que pour autant il y a danger? Évidemment, moi je pense que non. Je répondrais que non, il n'y a pas de danger. C'est absolument même ridicule de penser qu'il y a danger. En revanche, pour qu'il y ait une utilisation, fructueuse des images et pas seulement consommatoire, ça défile et puis je regarde et puis je tourne, je zappe, je clique et je tourne la page tout ce que l'on veut et puis c'est tout, hein. Je pense qu'il faut en avoir un usage responsabilisé, tous, les jeunes et les moins jeunes, tous. Et qu'est-ce que ça veut dire un usage responsabilité de l'image? Ça veut dire un usage qui passe par la parole. Un usage qui passe par la parole. C'est-à-dire qu'on prenne le temps de regarder et qu'on prenne le temps de réfléchir et de contempler. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Un usage résumé et qui passe par la parole des images, parce qu'autrement, évidemment, on risque de voir sans comprendre. C'est-à-dire que oui, il y a une dématérialisation des images, oui, il y a une multiplication des images, oui, il y a une hyper-visibilité du monde, mais si on veut transformer cette hyper-visibilité en hyper-lisibilité, il faut penser, regarder et éventuellement se documenter. Pourquoi est-ce que je vous mets cette image-là? Je peux vous en mettre d'autres. Celle-ci, c'est parce que c'est une affiche qui est relativement... belle, on pourrait dire, qui est ancienne, qui est de 1942, pendant l'occupation allemande, en pleine occupation allemande, une affiche qui, vous voyez, lorsqu'on analyse les outils de cette image, ce sont les couleurs et les formes d'abord qui nous impressionnent. Hein, le bleu du ciel d'été, l'or des chaumes, le mouvement dynamique d'un jeune homme qui monte le foie sur la main de foie, etc. Donc là, on a quelque chose de très saisissant, de très heureux, hein, et qui sollicite la jeunesse. Bon, si on regarde les écrits, on s'aperçoit qu'il y a national, 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 national. Il s'agit d'un emprunt national lancé par le gouvernement Vichy pendant l'occupation. On s'aperçoit que cette affiche, elle a été imprimée à Paris pendant l'occupation, au mois de juillet 1942. Qu'est-ce qui s'est passé en France au mois de juillet 1942? La rafle du Veldiv. Je peux vous dire que les gens qui ont été ramassés au Veldiv, ils n'étaient pas en train dans les champs à ramasser le foin en chantant. Hein. Bon, donc, il faut, quand on observe un petit peu. Et la demande d'implication du spectateur dans la joie, l'allégresse, le retour au chant, tout ce que l'on veut, et le contexte historique, hein, on comprend le cynisme de la propagande. Le cynisme de la propagande. Et pour cela, il faut un tout petit peu se cultiver. On va en voir une autre. Ah, pas utiliser l'image, mais à les utiliser de façon constructive pour vous, pour votre culture, pour votre personnalité, pour votre richesse personnelle et intérieure, hein, afin que précisément elles soient des outils comme la lecture, comme le sport, comme les randonnées dans la nature, etc. Elles soient des outils de construction et de richesse pour vous, au lieu d'être des passe-temps inutiles. Et ce que je crois, c'est qu'il y a une image très intéressante et à laquelle, sur laquelle on peut méditer et sur laquelle je pourrais conclure pour que nous ne devenions pas des somnambules, parce que vous observerez qu'avec les portables comme avec les appareils photo, le premier geste de la plupart des touristes, des voyageurs, peut-être même entre nous, que nous faisons, c'est ça. Hein, clac, 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 je prends, je prends, je prends. On voit des centaines de touristes en car qui descendent, qui mettent leur appareil, qui regardent l'appareil, hop, qui plient et ils remontent dans le car. Bon, qu'est-ce que c'est que ce geste? Non, mais ce geste, mettre les mains devant soi, c'est pour pas voir. C'est le geste des somnambules, c'est le geste des aveugles. Vous voyez? Mais oui. Quand on n'y voit rien, on met les mains devant pour pas se casser la figure. Et là, on met un écran, les bras et à l'écran en plus, entre moi et le monde. Donc, pour pas devenir des somnambules, pour que le monde ne soit pas opaque dans cette multiplication pour aller faire un second boulet d'images, il nous faut un usage intelligent, réfléchi et parlé. Voilà.